Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, Jacqueline Vauraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue à l'économie en direct sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Ile-de-France, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Ile-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Issus du monde politique, économique ou social, mes invités font l'actualité. Et ce matin, vendredi 25 octobre, en direct et jusqu'à 11h, j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Temal. Bonjour monsieur le sénateur.
Bonjour.
Très honoré de vous accueillir chez IDFM Radio. Merci d'avoir accepté mon invitation. Réélu aux dernières élections sénatoriales en septembre 2023, membre du Parti Socialiste, vous êtes également conseiller régional d'Île-de-France. Au Sénat, vous êtes président délégué de votre groupe et vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Avec nous ce matin pour aborder les commissions dans lesquelles vous siégez, mais également l'avenir du Val-d'Oise et les nombreux projets destinés à dynamiser ce territoire dont nous aimons rappeler qu'il est celui possédant la population la plus jeune de France. À vos côtés, Stéphane Boutin. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau.
Également.
Directeur des affaires culturelles pour la ville de Beaumont-sur-Oise. Nous allons découvrir avec vous la nouvelle saison culturelle de votre commune, avec une programmation riche et variée qui réserve de belles surprises et dont nous avons hâte d'en savoir plus. Et à vos côtés, Amandine Christin. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Enchantée de vous recevoir chez IDFM Radio.
Enchantée aussi d'être ici.
Projectionniste, animatrice jeune public au sein du cinéma Beaumont Palace. Vous nous expliquerez les divers aspects de votre travail, ses défis, ses plaisirs et son évolution. Bienvenue à tous les trois et merci d'être les invités en direct sur IDFM Radio.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Juste avant de vous donner la parole, nous accueillons ce matin, comme très régulièrement dans cette émission, notre analyste géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, dans le cadre de sa rubrique « Décryptons le monde ». Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline, ainsi qu'à vos invités et tous nos auditeurs.
Alors Gérard, étant donné l'actualité, vous avez souhaité ce matin maintenir votre regard sur le Moyen-Orient et plus spécialement la situation d'un pays particulier pour une chronique intitulée « Le Liban entre désastre et sauvetage ». Pourquoi ce choix ce matin, Gérard Vespierre ?
Oui, effectivement, Jacqueline, l'intensité du conflit au Moyen-Orient s'amplifie. Frappe de missiles iraniens sur Israël, élimination de Sinwar, le leader du Hamas, dans le sud de la bande de Gaza, frappe journalière du Hezbollah en Israël, avec réponse aérienne et terrestre de l'armée israélienne au Liban. Le Liban entre ainsi dans la crise. Ce pays, comme nous le savons, entretient des liens particuliers avec la France, liens historiques et liens culturels. Il est désormais au bord du désastre. Il a donc besoin d'un sauvetage.
Pourriez-vous nous décrire plus précisément les difficultés auxquelles le Liban, pays ami de la France, s'est trouvé progressivement confronté ?
Nos amis libanais vivent, hélas, une triple tourmente politique, économique et maintenant militaire. La crise a commencé il y a 50 ans par des affrontements entre factions libanaises et palestiniennes, puis l'intervention de l'armée syrienne. Le temps, cette durée de 50 ans, ajoute à la sévérité du drame. Un élément majeur fut la constitution à partir de 1982 du Parti de Dieu, le Hezbollah, sous impulsion iranienne, visant à constituer une force militaire chiite, donc religieuse, au Liban. À travers cette caractéristique religieuse fondamentale, le Hezbollah se rangeait sous l'autorité morale et politique du pouvoir religieux de Téhéran. Cet élément de relation, de soumission à l'Iran, est la clé. Le chef du Hezbollah se place dès la naissance du mouvement sous l'autorité politique et religieuse de Téhéran et non pas sous l'autorité du pouvoir politique libanais. L'Iran a ainsi créé au Liban une force militaire capable d'intervenir contre Israël. Khomeini, guide suprême de l'Iran, avant même d'arriver au pouvoir en 1979, avait déclaré Israël non pas ennemi de l'Iran, mais ennemi de l'islam. Aujourd'hui, le Liban subit toujours ce cadre idéologique. Israël n'a pas compris initialement la portée géostratégique et militaire de la création du Hezbollah. Ce mouvement est devenu au Liban une force politique incontournable puisqu'il empêche depuis octobre 2022, par son blocage, l'élection d'un nouveau président de la République. Depuis 2 ans, le Liban n'a donc plus de président. À cette situation, il s'est ajouté une lente dégradation de la situation économique, concrétisée par le couple infernal, chute de la monnaie, hausse de l'inflation et des prix, dans lequel est intervenu le désastre humain et industriel de l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Maintenant, bombardement aérien et pénétration de l'armée israélienne dans le sud de son territoire viennent depuis quelques semaines endeuiller une population déjà dans une situation extrêmement difficile.
En effet, au vu des événements de ces dernières semaines, comment, Gérard, décririez-vous la situation libanaise actuelle ?
Jacqueline, vous avez raison de percevoir que la situation libanaise a substantiellement évolué ces dernières semaines. L'élimination du chef du Hezbollah, Nassam Nasrallah, de ses proches collaborateurs et d'un très grand nombre de cadres du mouvement dans les opérations israéliennes de bombardement et d'explosion des instruments individuels de communication, Beeper et walkie-talkie, ont placé militairement le Hezbollah dans une phase de repli. Il s'agit pour les autorités libanaises d'essayer d'en capitaliser les effets sur le plan politique afin de mettre fin au blocage de l'institution présidentielle que nous avons évoqué. C'est le sens qu'il faut donner à l'inhabituelle et donc importante intervention du premier ministre libanais, Najib Mikati, qui s'est permis d'interpeller le pouvoir iranien il y a quelques jours en lui demandant d'arrêter son ingérence au Liban. Une intervention totalement inimaginable il y a un mois. C'est également à la lumière de cette perte de puissance militaire et potentiellement politique du Hezbollah qu'il faut comprendre les initiatives françaises vis-à-vis du Liban.
En effet, Gérard, on peut dire que le président Emmanuel Macron a été très vocal au sujet du Liban, et ce depuis le début de l'intervention militaire israélienne dans le pays.
Alors, vous faites très bien, Jacqueline, de rappeler ces prises de position auxquelles il faut ajouter une initiative politique majeure de la part de la France. Dès le début de l'intervention israélienne sur le territoire libanais, la France a appelé à un cessez-le-feu de 3 semaines, devant les conséquences désastreuses sur la population civile. Israël cherche à porter les coups les plus rudes possibles à l'appareil militaire du Hezbollah, mais ce dernier a placé ses stocks d'armement et ses sites de lancement de missiles au plus près de bâtiments civils, en utilisant ces derniers comme boucliers sans tenir compte des conséquences humaines. Cela a conduit à de vifs échanges entre le président français et le premier ministre israélien qui, lui, place la protection de ses propres citoyens en absolue priorité. À ces déclarations politiques de cessez-le-feu, appuyées par les États-Unis, s'est ajoutée l'initiative française de lancer très rapidement une conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban le 24 octobre à Paris.
L'intitulé de cette conférence « Soutien à la population et à la souveraineté du Liban » augure, me semble-t-il, d'un important programme politique.
Tout à fait. Il est important de réunir à Paris les partenaires du Liban, des représentants de l'ONU et de l'Union européenne. Il s'agit de pouvoir aborder les aspects économiques, politiques et sécuritaires de la situation libanaise. Il est très important de noter que l'affaiblissement du Hezbollah ouvre cette fenêtre d'opportunité, tout comme il conduit Téhéran également à voir la situation libanaise sous l'angle de potentielles négociations. Il faut savoir que le président du Parlement iranien, Mohammad Kalibaf, récemment en déplacement en Suisse, a évoqué des discussions possibles autour de la résolution 1701 de l'ONU. Ce texte prévoyait le repli du Hezbollah à une quarantaine de kilomètres de la frontière israélienne derrière le fleuve Litani. Mais cette disposition n'a jamais été appliquée par la milice chiite, toujours présente à la frontière israélienne. Téhéran semble indiquer, par le commentaire du président de son Assemblée nationale, une préférence pour un Hezbollah replié mais vivant, au lieu d'une milice morte, mais au plus proche du territoire israélien. Les discussions et négociations autour du Liban deviennent donc globales, les cartes sont rebattues par ou grâce aux pertes militaires importantes infligées au Hezbollah par les forces armées israéliennes en utilisant des moyens inédits. Il est à porter au crédit du gouvernement français d'avoir pris et concrétisé une telle initiative sous la force d'une conférence internationale, moins de 4 semaines après la mort du chef historique de la milice chiite. Espérons que là où il y a une volonté française, il y aura un chemin libanais, un chemin nouveau pour le Liban et le peuple libanais.
Merci Gérard pour cette synthèse et cette note d'espoir. Vos analyses, comme souvent, sont empreintes d'un esprit positif et optimiste et vous nous le prouvez une fois de plus ce matin. Je me tourne vers le sénateur Rachid Temal. Voulez-vous intervenir sur l'intervention de Gérard Vespierre ?
Oui, je veux bien. Alors après, il y a plusieurs choses, mais il y a une touche d'espoir à la fin. Mais rappelons que après l'explosion du port de Beyrouth,
de Beyrouth,
le président Macron avait déjà fait des grandes déclarations et des grands gestes. Il n'en reste rien. Mmh. Donc quand même, c'est pour refaire. Bon. Et puis deux, le Hezbollah qui est un mouvement terroriste qu'il faut combattre. Il pose problème, mais je veux dire, il n'est pas le seul. Rappelons quand même que, en fait, ce qui aujourd'hui, c'est les accords de Taif qui a permis la fin de la guerre civile et qui a aujourd'hui un pouvoir confessionnel, puisque le président doit être maronite, le premier ministre doit être sunnite et le président de l'Assemblée doit être chiite.
Oui.
Et donc, c'est un système très compliqué.
Oui.
Et le Hezbollah a trouvé des alliés, notamment parfois dans le camp maronite chrétien, contre d'autres. Donc tout le monde joue dans ce jeu-là, un jeu compliqué. Et donc je pense que le premier sujet, c'est de retrouver un État libanais qui prenne le contrôle de l'ensemble de son territoire, pour justement qu'à la frontière sud, notamment, ce soit bien l'armée libanaise et non pas le Hezbollah, qui soit à cet endroit-là. Donc il y a des sujets à la fois liés, bien sûr, au Hezbollah, à la fois à l'Iran, mais intrinsèquement dans le Liban, il y a un sujet depuis bien longtemps où il y a une dislocation d'un État, et d'ailleurs ce qui explique que beaucoup de Libanais le disent, c'est que c'est pour ça qu'il y a aussi plus d'économie, etc. Mmh. Parce qu'en fait, il y a plus d'État.
Donc,
il y a une forme de laisser à l'abandon. Donc, le Hezbollah est un des éléments, mais pas le seul.
C'est pas le seul.
Et après, comme tout mouvement terroriste, il faut bien évidemment le combattre. Parce que je rappelle quand même que ceux qui ont oublié, quand j'ai entendu après la mort du chef du Nasrallah, c'est que le Hezbollah, c'est notamment ce mouvement qui a le Drakkar, souvenons-nous. Hein. Nous avons près de plus d'une cinquantaine de militaires français en 82-83 qui ont été tués avec un attentat à la bombe. C'est aussi des journalistes qui avaient été pris en otage. Voilà ce qu'est le Hezbollah. Hein, et qui a effectivement mis en danger sa population en ayant cette attitude-là de tir avec sa proximité. Donc c'est tout ça qu'il faut régler, mais je veux dire... Je sais pas, je pense que c'est d'abord les Libanais qui doivent le régler avant même les gesticulations du président de la République française.
Merci Rachid Temal. Gérard, ça va vous donner du grain à moudre pour peut-être une prochaine chronique.
Volontiers. Et merci monsieur le sénateur pour ces commentaires.
Merci en tout cas pour cette note d'espoir. Hein. Nous en avons tous besoin et bien sûr le Liban qui en a plus besoin encore que nous. Chers amis auditeurs, ainsi prend prend fin la chronique de Décryptons le Monde de Gérard Vespierre. Vous pouvez retrouver tous ses écrits et interviews sur son site Le Monde Décrypté, www.lemondedécrypté.com. Bonne journée Gérard et à bientôt pour de nouvelles perspectives sur ce que vous appelez les 4 arcs de crise du monde.
Merci Jacqueline et bonne émission.
Merci, à bientôt. Il est temps à présent de faire une pause. À tout de suite.
Ne t'en va pas si tu m'aimes. Reste encore un peu. Reste encore un peu. Je te kidnappe, je t'enlève. Mon amour, on fera du feu. Du feu de nous deux. Rien ne nous presse dehors. Il fait trop gris et trop froid.
C'est l'inverse de ton cœur, c'est l'inverse de mes bras. Dans tes yeux ça crie encore, on sait pas tout dit je crois. Voilà un mot du docteur. Reste là qu'on se pose, y'a rien qui nous impose. Tout ce que je te propose, nos peines on les dépose. Et on met le monde en stop, y'a rien qui nous retient. On remet à demain ce qu'aujourd'hui est de trop. Reste un peu après le soleil, oublie les heures, les rendez-vous. Y'a plus rien d'autre qui vaut la peine, y'a plus rien autour. Mon amour, après quoi on court, quand tout est là devant nous. Quand y'a plus besoin de discours, ça vaut le coup. De nos vies accélérées, on fera les plus beaux ralentis. On prendra le temps de se reposer pour composer avec la vie. Si dans tes yeux ça crie encore, c'est qu'on sait pas tout dit, je crois. Voilà un mot du docteur. Reste là qu'on se pose, y'a rien qui nous impose. Tout ce que je te propose, nos peines on les dépose. Et on met le monde en stop, y'a rien qui nous retient. On remet à demain ce qu'aujourd'hui est de trop.
IDFM Radio, le média valdoisien.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission dans laquelle je reçois ce matin Rachid Temal, sénateur du Val-d'Oise et conseiller régional d'Île-de-France, président délégué de son groupe au Sénat et vice-président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Stéphane Boutin, directeur des affaires culturelles pour la ville de Beaumont-sur-Oise, et Amandine Christin, projectionniste, animatrice jeune public au sein du cinéma Beaumont-Palace. Et je me tourne dès à présent vers vous, monsieur le sénateur. Donc, peut-être quelques mots pour vous présenter.
Rachid Temal, je suis à la fois un Valdoisien de naissance et un tabernacien, puisque mes parents sont installés à Taverny, après des études d'économie, après avoir travaillé notamment dans le tourisme et aussi un peu dans la politique, j'ai effectivement, comme vous l'avez dit, été élu d'abord à Taverny, puis à la région Île-de-France et au Sénat, où à la fois, vous l'avez dit, j'ai su sur les questions notamment militaires, mais également qui concernent le Val-d'Oise, parce que moi j'ai une passion pour notre beau département, qui est, je le dis souvent, le plus beau de France. Vous l'avez dit vous-même, c'est le plus jeune de France. Alors, la France métropolitaine, parce qu'il y a Mayotte, oui. Mais sinon, oui. C'est le plus jeune de France. Et je crois que c'est celui qui a le plus de potentiel. Et on a besoin d'un Val-d'Oise qui se développe. Et donc, je suis heureux d'être aujourd'hui pour parler d'économie, parce que il y a des vrais sujets, des vrais enjeux pour notre département, qui a besoin d'emploi, qui a besoin à la fois d'éducation, qui a besoin de transport, etc., etc. Et donc, je crois que c'est ça le défi qui est devant nous.
Alors, et donc aujourd'hui, vous êtes sénateur. C'était une évidence pour vous de devenir sénateur ?
Non. Moi, j'ai découvert politique tardivement. Donc, mes parents, moi, je viens d'un milieu, on va dire, comme on dit, modeste ou populaire, hein, dans une cité HLM. Mes parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, la politique n'était pas, j'avais pas ni de réseau ni autre chose. Donc, c'était pas une évidence. La vie a fait que la volonté de m'engager... pour essayer de faire changer les choses, justement, quand vous habitez comme ça dans ce type de quartier, bah vous dites qu'est-ce qui peut faire que les gens, leur vie s'améliore. Oui. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il y a à la fois de l'économie, parce que c'est vrai, créer de l'emploi, etc. Il y a l'école. Moi, je suis un peu produit de l'école républicaine. Et puis oui. Aussi, quand on est élu local ou au niveau d'un département, d'une région ou nationale, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses s'améliorent? Donc, c'est ce qui me guide dans mon travail. Quand on a mené le combat, par exemple, pour que le lycée du Vexin, à Magnan-Vexin, soit enfin, après 30 ans, et on l'a porté maintenant, ça y est, ça va être une réalité, à la rentrée de septembre 2026, bah, c'était de se dire comment on peut être utile. Mmh. Quand je combats aujourd'hui pour qu'il y ait... plus de métro dans le Val-d'Oise, c'est aussi de me dire que ça permettra aux gens de se développer, de se déplacer, soit pour aller à l'école, soit pour aller travailler. Quand on l'évoquera peut-être à l'heure, je travaille et je soutiens le projet Agoralim. Là aussi, c'est comment on fait le Valoise une terre d'exception et comment on fait en sorte qu'il y ait de l'emploi, de la bonne, j'allais dire, de la bonne nourriture à proximité. Donc voilà, c'est ça qui est, à mon avis, le sens d'être
une parlementaire. Une forte volonté, donc, de participer à la vie collective pour la faire évoluer. Alors, sur les commissions, donc, vous êtes vice-président de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées. Peut-être nous dire quel rôle joue la France dans le renforcement de la sécurité en Europe, notamment face aux tensions géopolitiques actuelles.
D'abord, on a voté il y a maintenant fin 2023 une nouvelle loi de programmation militaire. Et l'idée, c'est comment la France, entre 2024 et 2030, s'arme, s'organise pour justement renforcer notre défense du pays, mais également des Français à l'étranger. Donc ça, c'est un élément important. On a beaucoup travaillé dessus parce que c'est vrai que la question n'est pas de savoir est-ce qu'il y aura la guerre dans le monde. On l'a vu avec votre intervenant tout à l'heure et on le voit tous. Il y a la guerre dans le monde et il y a la guerre en Europe. Justement, et donc il est important que la France soit à la hauteur de cela. Donc on travaille sur ces questions-là. On travaille également notamment sur la coopération internationale parce que c'est aussi un sujet important. Comme on travaille également sur, j'ai été rapporteur d'une commission d'enquête sénatoriale sur les ingérences étrangères. Absolument. Puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a à la fois la guerre, comme l'a fait la Russie à l'Ukraine avec des chars, des missiles, mais il y a aussi notre guerre, qui est une guerre informationnelle, où vous avez aujourd'hui des acteurs comme les empires contrariés, comme la Chine, comme la Russie, qui est un numéro un, la Russie, comme l'Iran, comme l'Azerbaïdjan ou d'autres. Les États-Unis sur une autre forme, notamment sur la question du droit et sur les entreprises, comme chacun le sait, on l'évoquera peut-être à l'heure. Et donc, on a rendu cette commission-là. L'idée, c'est que on a voulu avoir une politique nationale, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique nationale en France sur cette gestion-là de crise et cette volonté de combattre les ingérences étrangères. Donc voilà, donc c'est tout le travail que l'on met dans cette commission. Mais quand on est sénateur, on travaille aussi sur beaucoup d'autres sujets que sa propre commission. Mais en tout cas, moi, c'est le rôle que j'ai dans cette commission-là.
Et alors, est-ce qu'il est possible de nous dire les mesures que le gouvernement devrait prendre pour contrer ces menaces et mieux protéger les institutions françaises au niveau des ingérences malveillantes?
Alors, on a à nous proposer 47 mesures. Donc d'abord, partir du principe que le risque zéro n'existe pas.
Oui.
Deux, qu'on ne gagne pas cette guerre-là sans que l'ensemble de la population, ce qu'on appelle la nation dans le rapport, soit partie prenante. C'est-à-dire qu'il faut que l'État, les collectivités, les habitants, les syndicats, les associations, les entreprises participent à cela. Donc dans les mesures notamment, vous avez à la fois le fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucun travail notamment sur l'impact de ces campagnes-là sur les habitants. Donc là, il y a un vrai travail. Mais vous avez aussi des mesures à prendre sur des questions de sécurité. Par exemple, on a un outil qui est merveilleux, qui existe en France, qui s'appelle Viginum. On souhaite le développer, etc. C'est un outil qui permet justement d'identifier quand il y a des campagnes et de savoir d'où elles viennent. Donc ils sont capables, ça a été le cas notamment sur les étoiles David Bleu, sur les mains rouges, ça a été le cas sur les cercueils déposés notamment, et sur d'autres sujets. Et c'est une organisation qui donne ça, et c'est public, pour dire voilà, c'est tel pays ou tel groupe qui est porté.
Et on est capable de les identifier.
Oui, tout à fait. Et puis après, vous avez aussi des mesures. Nous, par exemple, si je prends la jeunesse, c'est un sujet qui me semble essentiel. Bah, par exemple, dans différents pays où ça fonctionne, par exemple, je pense en Finlande ou en Estonie, l'idée, c'est que l'éducation soit dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, et pas seulement dans les cours aux médias, mais dans ce que vous faites, par exemple, des maths, quand vous faites les cours de maths, vous donnez un chiffre, une statistique, c'est de faire comprendre aux jeunes, aux étudiants, que, en fait, comment elle se construit, comment elle peut utiliser dans un sens ou un autre, et donc cet esprit critique. Vous avez également le fait qu'aujourd'hui en France, on n'a plus de narratif également, pour que à l'étranger ou vis-à-vis de l'extérieur, on porte ce qu'est la valeur de la France, contrairement à d'autres qui assument leurs propres valeurs, si je prends encore une fois les Russes ou les Chinois. Donc vous avez comme ça 47 mesures qui font sens, qui font politique publique, Et donc, on l'a rendu au mois de juillet, juste avant les JO, parce que les JO, ça a été l'occasion également pour des compétiteurs de essayer de fragiliser la France. Et donc, voilà, c'est de se dire qu'à un moment donné, il faut porter cela, et puis faire en sorte que certains qui aiment reproduire ou diffuser des messages d'autres pays qu'ont la France devraient s'arrêter. Donc voilà, donc il y a des mesures à la fois sur des aspects économiques, on a fait sur des aspects militaires, sur des aspects de sécurité, sur des aspects culturels. On essaie de dresser l'ensemble du spectre. Donc voilà, donc le rapport est en ligne sur le site du Sénat. Et il s'appelle « La mobilisation de toute la nation contre la néo-guerre froide », parce que nous considérons que nous sommes déjà, nous, en guerre sur ces questions-là. Et comme le dit le chef d'état-major des armées françaises, il faut gagner la guerre avant la guerre. Donc c'est l'enjeu de ce type d'action.
Alors, pour continuer ce débat sur les ingérences étrangères malveillantes, est-ce que vous m'avez signalé que la réouverture de la base aérienne 921 de Taverny était à l'ordre du jour? Est-ce qu'elle est là justement pour renforcer la sécurité nationale et la défense aérienne?
Elle n'agit pas là-dessus. Mais pourquoi je vous ai signalé? C'est parce que moi qui suis un enfant de Taverny, c'est vrai que c'était une fierté pour les Tabernaciens d'avoir la base 921, c'était le centre de commandement de la défense aérienne et le PC Neptune où il y a le bouton et le fameux
pour le préambule bouton rouge.
Et c'est vrai que pendant très longtemps on a été au regret qu'elle ait été fermée, dégradée en unité. Et historiquement c'est assez rare. Il y a quelques semaines de cela, avec les maires de Taverny, de Bessancourt et d'autres élus de mes collègues, il y a eu la réouverture. Et la base de Taverny redevient une base. Et donc, il va agir sur plusieurs activités, pas sur celle-là. Mais je pense que c'est aussi important que on se dise bien que le Val d'Oise, là aussi, sur ces questions de défense, a un rôle majeur. Et donc, je pense que c'est une bonne chose que chacun l'entende, le sache, que le Val d'Oise a aussi un pilier majeur dans la défense de notre pays.
Elle ne fait pas donc partie des 47 mesures dont vous nous avez parlé
Le ministre Le Cornu l'avait déjà programmé.
Oui.
Mais en tout cas, je pense que c'est important que dans notre département, on se dise, quand on a tendance à dire c'est quoi le Val d'Oise, c'est le plus jeune département, je rappelle, puisque il a été créé après l'éclatement de la Seine-et-Oise en 1968. Donc, résultat des courses, c'est quand même de dire c'est quoi le Val d'Oise. Et c'est vrai qu'on a un département où on n'arrive pas à mettre en avant nos atouts.
Oui.
Si je prends l'aéroport de Roissy, qui a des nuisances sur lesquelles nous combattons, et d'ailleurs j'ai fait des propositions de loi là-dessus, c'est quand même une fierté d'avoir l'aéroport, le premier aéroport de France.
Absolument.
Quand vous venez en France ou en Europe, vous venez souvent dans le Val d'Oise. On a aussi l'abbaye de Royaumont, on a aussi cette base-là, Enghien, bien sûr. Donc, c'est bien de mettre en avant aussi ce que nous avons de positif dans le département. Et je crois qu'une base aérienne qui a ce rôle central y participe.
Merci, monsieur le sénateur. Je propose qu'on fasse une pause avant de continuer sur des sujets plus spécifiques. À tout de suite.
Escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
C'est l'économie en direct et ce matin, sur IDFM Radio, j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Temal, sénateur du Val-d'Oise et conseiller régional d'Île-de-France. Stéphane Boutin, directeur des affaires culturelles pour la ville de Beaumont-sur-Oise et Amandine Christin, projectionniste, animatrice jeune public au sein du cinéma Beaumont Palace, dont nous venons de rappeler là, pendant le off que c'était là où a été tournée la dernière séance hein, avec Eddie Mitchell, mais je pense qu'on reviendra là-dessus Amandine tout à l'heure. Alors, monsieur le sénateur, sur des sujets plus spécifiques, vous nous avez avoué être un amoureux du Val d'Oise. Et donc, parlons un peu, justement, de Agoralim à Goussainville.
C'est, dans notre département, il y a, je crois, trois grands projets qui ont, à mon avis, du sens. Aujourd'hui, il y a le métro, on l'évoquera. Mmh. Il y a, je crois, la Cité internationale à Cergy-Pontoise, qui est essentielle. Et il y a Agoralim. Agoralim, pour que tout le monde l'entende bien, c'est en gros le Rungis du Nord. C'est quoi l'idée? C'est que demain, puisque je salue le maire Abdelaziz Hamida avec le président de Rungis.
Oui, Stéphane Layani.
Stéphane Layani également. Mmh. D'avoir porté ce projet, c'est de dire comment, dans le nord d'Île-de-France, c'est-à-dire en Val d'Oise, et en l'espèce, à Goussainville, on espère sur les communes limitrophes, puisqu'il y a des projets aussi, notamment à Gonesse et d'autres. Comment on va faire en sorte que on ait des circuits courts entre de la production agricole et des lieux de vente de produits agricoles, et notamment, et puis ensuite, derrière ça, de la capacité de, pourquoi pas, et s'il faut aller vers là, d'alimenter les habitants, notamment les écoles, etc., etc. Et donc, c'est le marché de demain. Et donc, c'est une capacité d'avoir un marché de demain chez nous, qui sera pas délocalisable, et qui donne que le Valois soit aussi demain sur cette capacité de bonne agriculture, de bonne nourriture, et ben nous soyons à la pointe. Et donc moi je soutiens beaucoup ce projet-là, qui est un projet majeur pour l'Île-de-France, mais qui sera donc dans le Val-d'Oise. Et puis j'y ajoute aussi le fait que dans le projet à ligne 19, peut-être qu'on l'évoquera, donc je rappelle, c'est entre la Défense jusqu'à Roissy, via la ligne 17 au triangle de Gonesse, on puisse avoir aussi une branche vers Agoralim, pour que justement les gens puissent se déplacer. Quand il y aura le 19, on bataille pour cela, et ben ils puissent se déplacer. Donc c'est trouver des écosystèmes pour que finalement les gens qui habitent dans ce coin-là, que je rappelle c'est un endroit où le chômage est plus important qu'ailleurs, ben trouvent des débouchés professionnels. Et que la question agricole, mais aussi la question de la vente, la question de l'agriculture, de bio, de tout ce qui est nutritionniste, etc., et des débouchés. Donc je crois que c'est un sujet important qui est porté. Et que je le dis, c'est que le marché de Rungis a fait une sorte d'appel d'offres, entre guillemets, d'appel à projet.
Oui.
Et c'est l'abnégation des élus locaux, notamment du maire de Goussainville, qui a permis le choix de ce site. Ça n'a pas été,
c'est pas
Rungis qui a choisi.
Ils
ont dit, dans l'Île-de-France, où on peut nous faire ça. Et donc, il faut, quand le Val d'Oise gagne des points comme ça, il faut le dire. Et donc, moi, je soutiens ce projet depuis bien longtemps. Et maintenant, on est en phase active puisque le site à Goussainville est maintenant choisi. Et donc, on va rentrer dans toutes les procédures, bien sûr, nécessaires pour la construction. Mais c'est un beau projet pour le département.
J'avais eu l'honneur d'accueillir Monsieur Stéphane Layani au moment où c'était vraiment les balbutiements d'Agora Lim, juste avant que Monsieur Castex vienne pour annoncer
le plan
Val d'Oise. Et vraiment, on ne peut que saluer ce projet qui va déjà désengorger, je pense, Rungis, forcément.
Oui, au maximum.
Et puis pour tous les commerçants du Val d'Oise, ne plus aller dans le sud.
Du Valois, c'est même compliqué. Plus largement, parce que ce sera tout vraiment le nord. Au lieu d'aller effectivement à Rungis, ils pourront venir là sur les carreaux, ce qu'on appelle les carreaux. C'est le terme adéquat sur les carreaux. À Goussainville aujourd'hui et demain sur d'autres. Voilà, donc c'est un vrai plus. Donc on aura comme ça de la valeur ajoutée, de la notoriété et de l'image positive pour notre département. Et je le dis, il faut y ajouter les éléments de transport. Parce que, je le dis, c'est la ligne 17. Je sais que pour certains, ça fait débat. Moi, j'ai toujours soutenu. C'est la seule gare des 68 gares des Grand Paris Express, la seule gare dans le Valois. Je rappelle que tout le monde paye, les entreprises et les habitants, les gares. On a une dans le Valois, certains voudraient la retirer. C'est une aberration. Elle aura lieu et c'est une bonne chose. Mais pour ceux qui seront à proximité, c'est-à-dire qu'en moins de 20 minutes, en l'espèce c'est 17 minutes, vous pourrez aller soit vers Paris à l'arrêt Pleyel, soit à Roissy. C'est-à-dire que pour les habitants, la capacité d'aller sur les deux grandes plateformes d'emploi que sont Paris et Roissy, la capacité également de voyager, de se déplacer, etc., c'est extraordinaire. C'est-à-dire, nous aurons enfin le métro dans le Valoise. Moi, j'en veux encore plus quand certains veulent les retirer. Et donc, c'est pour ça que je plaide, d'ailleurs, comme la présidente du département, notamment Madame Kavecki, comme la présidente de la région, Madame Pécresse, nous plaidons pour la ligne 19, je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui ferait de la Défense, elle passerait par Argenteuil, et elle remonterait dans la vallée de Montmorency, notamment l'ancien BIP, et elle irait ensuite rejoindre la ligne 17, et donc vous pourrez aller sur Roissy ou redescendre sur Paris, et puis je l'espère un tronçon vers la Agora Lim, et c'est encore une fois comment on améliore les transports, parce que dans notre département, faire le transport intra-valois, c'est très compliqué. Donc là, c'est comment on améliore les déplacements. Ça veut dire faciliter de l'emploi, de la formation. Je veux dire, il faut que tous nos étudiants puissent se rendre facilement également demain, encore plus qu'aujourd'hui, dans les pôles universitaires, notamment à Cergy. Parce que si on veut faire une cité internationale à Cergy, avec l'ingénieur jusqu'à tous les métiers, on souhaite y ajouter, je rappelle, la question de la médecine, puisque nous sommes le seul département de France à ne pas avoir de CHU. C'est un problème puisque ça veut dire qu'on ne maintient pas, on n'a pas de recherche médicale de ce qui est de qualité et on ne maintient moins bien les médecins dans le Val-d'Oise. Donc si on veut le faire, il faut aussi mettre tout ça. Ouais, c'est un projet
en
comme
fait,
ça qu'il faut porter.
Tout se tient, on comprend.
Tout se tient, mais il faut être ambitieux.
Oui. Alors, vous nous l'avez très bien décrit, mais dire que Agora Lim sera un exemple précisément de développement durable, de par sa proximité avec
les circuits courts, les matériaux utilisés, parce que c'est sûr que Rungis a été fait il y a très longtemps, et donc on va faire un Rungis mais du 21e siècle. Voilà, donc c'est un vrai plus, et moi je compte beaucoup sur la question de la formation. Notamment
tout à l'heure. Oui, je crois que ça a été pensé aussi avec des académies sur la cuisine. Et il me semble me souvenir que lorsque j'avais reçu Monsieur Layani, il était question de 4000 emplois avec le projet Agora Lim. Donc voilà, c'est une vraie chance.
Il va se déployer en plusieurs phases.
Bien sûr.
Mais c'est vrai. Donc et puis comme toujours dans ces cas-là, vous avez les emplois directs et indirects. Et puis comme on est à côté d'un aéroport, comme on est aussi sur la route d'accès vers le nord. Puisque je rappelle qu'on peut aussi irriguer les marchés du nord de la France, du nord de l'Europe.
Complètement.
Donc voilà, on va devenir une plaque tournante majeure et un point de rassemblement important.
Alors, concernant les travaux et les délais de livraison des lignes 17 et 19, quelles sont vos attentes ?
Alors là, sur la ligne 17, aujourd'hui, j'étais il y a 15 jours avec le président du directoire de Grand Paris, enfin de la société du Grand Paris. Donc
Grand Paris là-dessus, Express, oui.
Là-dessus, il y a pas de retard. C'est-à-dire, on est toujours sur 26 chez nous et 29 peut-être la ligne. Donc ça, là-dessus, il y a pas de retard. Ça avance bien. On aura une très 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 belle gare au Triangle de Gonesse, elle est magnifique. Et puis il y aura à côté, je rappelle, un lycée international avec notamment toutes les filières agricoles également, mais aussi générales. Donc on va faire de l'extrême qualité à proximité de la gare. Donc là aussi c'est un projet important à signaler. Et sur la ligne 19, à ce stade, nous avons un accord, je crois à peu près du département, de la région, d'ensemble des élus sur le fait que elle est nécessaire.
Oui.
Donc là, la première étape, ce sont les études. Donc là, on a fait des propositions. Moi, j'ai fait la proposition à la présidente de la région et du département d'y ajouter le deuxième tronçon que j'évoquais vers Agoralim. Donc là, maintenant, c'est le financement et la réalisation d'études. Et quand on aura cela, on verra les délais. Mais c'est comme toujours. Si on commence pas par dire on veut, si on commence pas par être ambitieux et volontariste, on n'y arrive pas. Je le redis, les 68 gares qui ont été créées, certains en ont beaucoup dans leur département, nous une seule. Voilà, moi je pense qu'il faut favoriser, et surtout c'est du métro. Et donc quand on dit aujourd'hui il faut penser à décarboner l'économie, et ben le métro c'est la meilleure réponse, donc il faut y mettre les moyens. C'est vrai que ça coûtera de l'argent, tout ça est vrai. Mais
oui, mais avec un retour sur investissement, évident.
Ouais. Bien sûr, d'un point de vue de la santé publique, mais également d'emploi, de formation, de qualité de vie, d'amélioration de la vie. C'est ça qui est important pour nos habitants.
Merci, monsieur le sénateur. Une nouvelle pause et puis on parle du CHU qui vous tient à cœur également. À tout de suite.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
IDFM Radio, c'est l'économie en direct. Monsieur le sénateur, on continue ce tour d'horizon sur les projets du Val d'Oise. Donc, où en est ce projet de création d'un CHU et d'une faculté de médecine dans le département, et quelles sont les étapes à venir?
Alors d'abord, il y a une mobilisation de beaucoup d'élus, notamment je souhaite rappeler l'engagement fort notamment de quelqu'un comme Jean-Paul Jandon, en président de l'agglomération de Saint-Gilles-Pontoise, qui porte beaucoup ce projet, mais également d'une nouvelle députée, Aïda Adizadeh, qui est députée sur la deuxième circonscription du Val-d'Oise, donc un bout de Cergy, Saint-Ouen, qui remonte vers le nord du département. Et ils sont beaucoup impliqués sur ce dossier-là. Et l'idée, c'est qu'on avance étape après étape. Donc là, il y a une mobilisation, je crois, de la communauté hospitalière de notre département sur la nécessité. C'est un bon point. Et maintenant, c'est comme toujours, il faut à la fois construire une fac de médecine. Et là, il y a une mobilisation aussi qui est nécessaire. Et puis à la fin, des moyens financiers, des crédits budgétaires. C'est vrai que le budget tel qu'il nous est annoncé par le gouvernement nous inquiète, mais on va mobiliser là-dessus. Donc là, on est au début d'une procédure. Mais je crois que pour la première fois, les planètes sont en train de s'aligner. Donc je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le lycée Magnan-Vexin, il fallait que tout s'aligne à un moment donné. Je crois que là, on est proche de cela. Et puis je pourrais aussi saluer l'engagement dans ce dossier-là d'un autre jeune député, Romain Eskenazi, qui est pas loin d'ici, puisqu'il est député de la 7e circonscription, Montmorency, un bout de Sarcelles, et puis vers Bouffémont et Daumont, dans ce coin-là. Mais donc voilà, donc on a aujourd'hui des élus avec qui on bosse sur ces questions-là.
Investi.
Et ont investi. Et donc je pense que on pourra y arriver. Il faut que tout le monde pousse dans le même sens, mais je crois que c'est une nécessité, parce que je rappelle que notre département, il a, comme d'autres, un triste record, c'est que c'est quand même un désert médical.
Oui, oui.
Et donc, quand vous avez un désert médical, ça veut dire que les gens vont à l'hôpital, et notamment aux urgences. Et donc tout ça déséquilibre totalement le système. Donc il faut que retrouver des médecins de ville, mais il faut aussi retrouver un hôpital qui fonctionne. Et un CHU, je le redis, c'est sur la recherche, sur les moyens, beaucoup d'avantages pour les habitants qui vont ensuite aller se faire soigner. Et donc l'idée, c'est d'avoir l'idéal serait que ce soit quelque chose de globalisé, parce que on a les trois pôles hospitaliers dans le département. Mais voilà, donc là-dessus ça avance, on pousse bien. Mais je vous l'ai dit, donc notamment Jean-Paul Jandon en tant que président de l'agglomération, mais aussi avec Aïda Adizadeh ou Romain Eskenazi, et puis bien sûr le département,
etc.
Donc tout ça va pousser dans le même sens pour que nous l'obtenions.
Donc un projet qui contribuera forcément à l'amélioration des soins de santé dans la région, et puis la formation de futurs professionnels de la santé.
Et le maintien notamment dans les hôpitaux du Val-d'Oise, ce qui serait une nécessité.
Alors, vous m'avez un petit peu tendu une perche puisque vous parliez du budget. Parlons du budget 2025 de l'État et de ses impacts. Quels sont, selon vous, les impacts les plus significatifs de ce budget sur les collectivités, locales et notamment les communes du Val d'Oise?
Ben, d'abord, moi, dire d'un mot, moi, tout ça me paraît assez ahurissant. On nous annonce un dérapage historique des finances publiques et de la dette, puisque je rappelle qu'on était à 4% du PIB, on passe à 6%, et que personne, en tout cas personne, l'ancienne majorité autour du présidentiel, ne sait nous expliquer pourquoi. C'est quand même un premier sujet qu'il faut quand même. Et donc moi je soutiens, c'est ceux qui portent une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Bon, parce qu'en 9 mois, perdre autant d'argent, il faut quand même nous expliquer. Bon. Deux, oui, ça, le choix qu'a fait Michel Barnier et son gouvernement, qui reprend à la fois des macronistes qui ont quand même mis la France dans ce déficit-là, et à la fois des républicains, un budget. Aujourd'hui, la proposition budgétaire, elle est, je crois, la potion, elle est trop amère. C'est de l'austérité. D'abord, elle pèse la croissance, et puis elle est très dure avec les collectivités, mais avec les entreprises également. Je viendrai notamment quand on prend tout ce qui est chambre de commerce ou artisanat et autres. Sur les collectivités, bah, ça va être des milliards ou des millions en moins. Mais quand on dit ça, les gens peuvent dire c'est des économies, mais concrètement, quand vous êtes maire d'une commune, il n'y a pas de gras, j'ai envie de dire. Faut arrêter de là aussi de raconter des choses bizarres. D'abord, je rappelle qu'en 2017, le président de la République a supprimé la taxe d'habitation. C'est chaque année plus de 20 milliards d'euros de retirés aux communes. Alors on dit toujours oui, c'est compensé, mais je vous explique comment ça marche. Quand vous dans une commune, vous avez besoin de créer du logement, quel que soit le logement d'ailleurs. Parce que bah, les jeunes de votre ville ont besoin de prendre leurs habitations, les familles se grandissent, etc. etc. Vous construisez. Mais pour construire, vous mettez en face des services publics. C'est quoi? Bah, il faut que je pense aux crèches, il faut que je pense aux écoles, il faut que je pense aux structures pour faire de la culture, du sport. Il faut que je... Tout ça, il faut le financer. Avant, c'était ça la dynamique. Vous créez de logements, vous avez de nouveaux contribuables et vous construisez un système vertueux. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, puisque la base a été arrêtée en 2017. Donc on nous dit, il y a toujours un petit bout de quelque chose qui traîne. Ok, mais ça ne marche pas. Deuxième chose, il y a eu le vote l'an dernier de la suppression de la CVAE, ce qui était l'ancienne taxe professionnelle. Oui. 8 milliards. Bon, tout ça, c'est de l'argent que touchait les communes et les intercommunalités, pour là aussi développer des projets. Donc aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Donc quand vous êtes à la région de France, c'est 320 millions d'euros en moins. Bon, la région de France, elle a deux grandes compétences. Les lycées, faudra m'expliquer dans quel lycée on coupe. Hein. Quand vous allez voir l'état des lycées, faudra m'expliquer. Et elle a l'autre compétence, c'est les transports. Personne ne peut dire que ça marche bien. Bon, donc c'est ça la réalité. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, le projet de budget est dévastateur. Et je vous parle même pas des Français qui vont payer l'électricité plus chère, etc., etc. Donc tout ça pose problème. Donc aujourd'hui, et la suppression de 4000 emplois. Là aussi, ceux qui nous écoutent, quel parent d'élève peut expliquer qu'il y a trop de profs dans ces écoles? On est plutôt en train de se demander parfois, j'ai un prof qui n'est pas remplacé. Ben là, l'État décide d'en supprimer 4000.
Et pour nous, les radios locales, une coupe sombre dans, et bien dans sûr. Le FSER qui nous fait très peur.
Bien sûr, donc c'est la même chose. Vous avez, hier j'ai eu un échange avec les chambres, par exemple, de l'artisanat. Pareil, bravo. C'est des logiques, vous savez, ça m'a rappelé ce qu'avait fait à l'époque Nicolas Sarkozy sur il avait une politique globale et il supprimait partout des postes. Ça s'est terminé quand même par, je vous rappelle, 13 000 policiers en moins. Quand il en faut plus aujourd'hui, François Hollande qui les a d'ailleurs établis, et c'était 60 000 profs en moins. Donc cette vision comme ça, monolithique, où on rase pour tout le monde, c'est dangereux. Donc il faut effectivement contenir la dette, mais enfin, il faut que ceux qui l'ont mis là nous expliquent comment. Et puis, il faut aussi faire en sorte de trouver des mécanismes plus intelligents. Parce que, je rappelle, quand vous cassez la croissance aujourd'hui, l'estimation, c'est que ce budget peut faire réduire la croissance de 0,8%.
C'est ça, oui, ça a des conséquences forcément sur la consommation.
Quand vous avez une croissance d'1%, on pense que peut-être moins 0,8, il vous reste plus que 0,2, c'est-à-dire rien. Et de l'inflation, c'est très dévastateur. Donc, c'est un combat qu'on va mener, aujourd'hui, c'est en cours à l'Assemblée. Nous aurons à le mener aussi au Sénat. Et donc, moi, je poserai comme d'autres des amendements avec responsabilité. Mais la question, c'est de faire des choix. Il faut assumer nos choix. Mais j'espère que, par exemple, Moi, j'ai voté la loi de programmation sur la sécurité intérieure. J'espère que la promesse du gouvernement et notamment de M. Darmanin de l'époque, que les deux brigades de gendarmerie dans le Val-Oise arrivent bien. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que cela, dire finalement, on a voté des choses, notamment sur la sécurité, et ça n'arrive pas dans notre département. Donc on a besoin de cela. Donc les services publics, c'est pas juste un gros mot. C'est des réalités concrètes pour beaucoup, pour des millions et des millions de nos concitoyens. C'est les écoles, c'est la sécurité, c'est les infirmières, c'est tout ça la réalité.
C'est ça, ouais, ouais. Donc à faire à suivre hein, sur les effets concrets sur les services publics de proximité dans ce contexte de contraintes budgétaires. De toute façon,
moi je pense que dorénavant sur la question des déserts médicaux, la question de médecins municipaux ou interco etc va se poser. C'est-à-dire que parce
elle
que prenons
déjà,
un cas,
ouais.
Elle se pose, mais non mais je veux dire dans le fait, vous êtes dans un territoire on va dire plutôt rural, un médecin pour venir s'installer il faut et c'est normal, il faut qu'il puisse vivre financièrement.
Bien sûr.
Bah, vous êtes pas sûr de pouvoir financer un vrai salaire. Donc la question d'un système va se poser d'intervention publique. Mais tout ça, pareil, sont des choix politiques, des choix de politique publique. Mais on dira, est-ce que vaut mieux un peu de dépenses et la santé de nos concitoyens, je rappelle, ça évite des grosses dépenses après,
oui.
S'ils ne sont pas... Tout ça, il faut regarder ça dans son ensemble et ne pas avoir juste une vision comptable ou par Excel.
Merci infiniment, monsieur le sénateur Rachid Temal, pour votre intervention. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous auriez aimé répondre?
Ah ben non, moi je suis pour la presse libre, donc c'est à vous de poser la question et moi d'essayer d'y répondre. Merci pour votre invitation.
Merci pour toutes ces précisions et puis sur votre mission au sein de cette prestigieuse institution et puis votre amour du Val d'Oise pour son économie. Un peu de musique, donc, avant de poursuivre avec mes autres invités. À tout de suite.
Mon amour, j'appelle tes mains à leur part. Pour mon corps se grippe, mon amour, sais-tu le risque qu'il encourt? Mon corps s'éteint, mon amour, il ne vaut rien sans ton secours. Mon corps est atone, mon amour, et je sens poindre un non-retour. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps s'engourdit, mon amour, j'appelle tes sens en dernier recours. Pas un credo plus que l'envie, je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et mon âme. Quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Mon corps expire, mon amour, tes yeux se ferment sur ses atomes. Mon corps disparaît, mon amour, je suis fini sans ton concours. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps se meurt, mon amour, car face à lui, le tien reste sourd. Pas un credo plus que l'envie, je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et mon âme. Quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Mon corps se console, mon amour, il reprend vie contre un autre velours. Mon corps me guérit, mon amour, j'aime quand il vibre sans détour. Sa vie me ranime, mon amour, je cours au dehors, revoir le jour, sa vie me...
IDFM Radio, le média valdoisien.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et je suis toujours en compagnie de Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise et conseiller régional d'Île-de-France, membre du Parti Socialiste. Stéphane Boutin, directeur des affaires culturelles pour la ville de Beaumont-sur-Oise, et Amandine Christin, projectionniste, animatrice jeune public au sein du cinéma Beaumont-Palace. Alors Stéphane Boutin, pouvez-vous déjà, merci d'être avec nous pour nous faire part de cette saison culturelle dont j'ai pu apercevoir qu'elle était très riche. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des grands événements qui marqueront cette nouvelle saison ?
Oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc la saison, on l'a démarré avec Vol et Divol, qui était un spectacle théâtral, hein, qui est sur un sujet d'un sportif voulant aller au JO, donc c'était plutôt d'actualité. Oui. Après, nous avons passé sur un hommage à Claude Nougaro.
Ah oui,
qui était le 14, je crois, de mémoire. Non, qui était le 12 octobre, voilà. Après, lundi 25 novembre, nous avons un spectacle qui s'appelle La Voix des Femmes. Donc c'est La Voix des Femmes qui est une série de témoignages délivrés et confiés à Séverine Ferrer. Et donc il y a une représentation pour les scolaires à 14h et à 20h grand public. Et c'est un spectacle entièrement gratuit.
Merci.
Donc il faut en profiter.
Alors Stéphane, quels sont les critères attendus lorsque vous sélectionnez des artistes et des spectacles à chaque saison et puis plus particulièrement celle-ci ?
Oh, les critères, il y en a un certain nombre. Il y a un premier critère important qui est le coût quand même, hein, qu'on ne peut pas oublier. Hein. On est toujours avec des budgets très contraints en règle générale. Après, ça dépend dans les villes dans lesquelles vous êtes, mais lorsque vous êtes dans une ville où l'habitude culturelle d'une saison et d'une programmation récurrente n'est pas forcément ancrée, ben il est important d'essayer d'aller mettre quelques spectacles avec quelques noms reconnus, que ce soit du spectacle plutôt populaire, mais qui dit populaire ne veut pas dire de mauvaise qualité, loin s'en faut, et heureusement d'ailleurs. Et après, on essaie de balayer un petit peu tous les champs artistiques, sachant qu'on ne peut jamais aller sur tous les champs artistiques, ou alors faut avoir des programmations avec des 40, 50, 60 levées de rideaux, et encore, je suis pas sûr que ça soit d'ailleurs la meilleure solution, enfin moi je le préconise pas en tout cas. Toujours important d'avoir une identité lorsque l'on fait de la programmation, qu'elle soit sur la chanson française à texte, qu'elle soit sur le circassien, qu'elle soit sur la danse, qu'elle soit sur le théâtre classique ou pas, ou sur l'humour aussi, tout simplement. Donc voilà, alors là sur Beaumont on est sur une toute petite programmation de 9 spectacles, on essaie de balayer un peu tous les champs mais c'est très compliqué, enfin je ne peux pas balayer tous les champs et puis je n'en ai pas forcément le souhait, je n'ai pas non plus un lieu qui puisse me permettre de balayer tous les champs, par exemple la danse, oui. C'est assez compliqué sur des plateaux assez restreints. Même si on peut faire des choses, hein, c'est pas le problème en soi, mais c'est toujours plus compliqué. Et puis la danse, c'est un grand danger pour n'importe quelle salle de spectacle, en dehors des scènes conventionnées ou nationales qui peuvent se permettre de prendre ce genre de risque, c'est toujours très compliqué.
C'est-à-dire parce que
le public a du mal à répondre présent sur la danse, que vous preniez des gens connus ou pas, c'est toujours assez compliqué. C'est un petit peu comme le classique où on reste sur des niches. Et sur des villes où il n'y a pas un gros potentiel client et il n'y a pas forcément une habitude, où la culture est un peu éloignée, on va dire, du quotidien des gens, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est plus simple de faire de l'humour, de faire du théâtre de comédie ou du vrai beau théâtre classique aussi. Hein. Ça marche, ça peut très très bien marcher. Et en plus de ça, il y a le circassien qui s'est invité sur les scènes de spectacle.
Le circassien, donc pour nos auditrices auditeurs, c'est le cirque.
C'est tout ce qui est dérivé du cirque par l'acrobatie en règle générale, tout ce qui est gymnastique au sol. Et donc les Farfadels l'ont fait, le cirque du Soleil, eux depuis très très longtemps, mais ils restent dans leur cirque du Soleil maintenant. C'est juste une entreprise, enfin une multinationale qui est énorme basée au Canada. C'est monstrueux. Monsieur Temal
est bien placé pour nous en parler.
Pour savoir que dans sa famille il y a une une équipe de prod qui travaille très bien d'ailleurs en France et qui est d'une jolie société. Et je passe un petit bonjour à Camille Junino si elle m'entend. Voilà. Et donc oui, le Circassien s'est invité aussi. Et donc voilà, ça fait des parts de marché en main pour un certain nombre d'autres acteurs ou domaines artistiques. Mais donc, voilà, faut partager le gâteau, comme on dit.
Voilà. Ça veut dire que favoriser la diversité culturelle et plusieurs formes d'art n'est pas aussi évident que ça.
Non, parce que déjà, il faut un certain nombre de spectacles pour arriver. Il faut donner du rythme à une saison.
C'est ça.
Donc, on ne peut pas être sur 3, 4, 5 one-man shows d'affilée. Il faut rythmer
entre les
goûts et les différentes couleurs, on va dire. Et donc, il faut avoir un certain nombre de spectacles et donc des budgets conséquents aussi. Et le nerf de la guerre est toujours le même. C'est quand on est sur des budgets très contraints, ben on peut faire des choix.
Oui. Et est-ce que vous, on a bien compris que la saison c'est toujours un enjeu hein, en termes de fréquentation du public et de rayonnement culturel, en tout cas sur une ville comme Beaumont-sur-Oise. Est-ce que vous prenez en compte les attentes du public avant d'élaborer le programme? Vous avez des indicateurs qui
on a
vous...
Pas forcément d'indicateurs. Enfin, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'en ai pas, moi, spécialement sur Beaumont-sur-Oise. Je l'ai eu sur d'autres communes parce qu'on faisait faire des sondages. Alors, partout où on peut les faire, c'est souvent à peu près la même chose qui revient quand même, parce que tout le monde, c'est assez varié.
Oui.
Mais le classique, enfin, le théâtre dit classique comme contemporain, comme l'humour, comme la chanson française, en règle générale, c'est beaucoup demandé. Le rire aussi, évidemment,
parce que vu
les périodes dans lesquelles nous sommes depuis quelques années, c'est important d'avoir le sourire. Et puis, alors après, avec des quantités moindres, on nous demande du jazz, du classique, enfin... Toutes les typicités que l'on peut avoir dans le spectacle vivant, on l'a dans le public en règle générale. Alors plus ou moins important. Et puis au moment où on fait le sondage, si c'est un one-man show humoristique, effectivement, on va avoir beaucoup plus de gens qui seront... Donc c'est pour ça qu'il faut recroiser,
il faut faire des croisements.
Et c'est pas une science infuse, parce que lorsque vous avez 400 personnes qui représentent 2% d'une population, ce n'est pas forcément...
C'est pas
gagnant évident à chaque fois. Après, il faut faire des choix, et puis c'est la couleur que l'on veut donner par rapport au rayonnement que l'on veut. Donc, en fonction des choix que l'on peut faire, on peut avoir du rayonnement un peu différemment. Mais après, c'est des choix. Ce sont des choix politiques, à moi de les appliquer, en l'occurrence, lorsque c'est moi qui suis à la direction, et à mes collègues qui sont sur d'autres communes.
Alors, vous parlez des contraintes budgétaires, ça impacte forcément les tarifs que vous diffusez pour vos spectacles?
Alors, pas forcément. Là, c'est pareil. C'est un choix politique.
Oui.
Soit on fait des spectacles avec des... Alors, la culture, on ne pourra jamais gagner de l'argent en culture, ou très rarement, en tout cas. Après, il y a la vision aussi d'en perdre le moins possible.
C'est ça. Le but, c'est de la rendre accessible tout en la soutenant.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est un vrai choix politique. Parce que même des tarifs un peu élevés sur de la culture, en règle générale, on perd aussi de l'argent. On en perd moins, mais on en perd. Donc après, c'est un vrai choix politique de faire des prix très bas, et ça, tant mieux. Parce que ça donne un accès à beaucoup de monde.
Complètement.
Le plus important, c'est d'arriver à le faire savoir, surtout. Et ça, c'est toujours le grand problème de toutes les communes de France et de Navarre, en règle générale. C'est toujours un problème sur la communication.
Alors, profitez-en. Donnez-nous des exemples de tarifs pour vos prochains spectacles.
Nous, tous nos spectacles, en dehors du concert de Noël qui est fait le dimanche 8 décembre par Isara Braz Collegium, qui est à 5 euros. Sinon, tous les autres sont à 15 euros en prix tarif plein. Après, en tarif réduit, on est à 10 euros. Alors là, c'est pas le bon exemple, parce que je regarde Jazz au fil de l'Oise en plus. Et 5 euros en tarif enfant. Et sinon, sur Jazz au fil de l'Oise, qui est une co-réalisation, c'est indépendant en termes de gestion, et le tarif est de 18 euros. Où nous avons Yom et les frères Théo et Valentin, qui sont de très très grands musiciens français dans le jazz. Et donc nous avons cette chance de pouvoir les recevoir le samedi 14 décembre au Palace à 20h30, donc c'est parfait.
Eh bien, nous en ferons la communication sur IDFM Radio, comme tous vos spectacles. Alors, vos besoins, eh bien, vous l'avez dit, c'est de la communication, des mains, de l'argent, du temps.
Mais c'est toujours le même problème partout, en règle générale.
À relever le défi.
Et c'est jamais simple d'arriver à tout faire entrer dans des budgets très contraints, mais... mais c'est notre lot.
Mais vous y arrivez avec des spectacles assez formidables d'ailleurs.
Des fois, on y arrive plus facilement que d'autres parce qu'on a des budgets plus importants. Des fois, on a des producteurs plus sympas que d'autres aussi qui font des remises plus importantes. Et après, il y a des longues soirées d'hiver qui font que ça peut avoir une incidence sur les remises également.
Bien sûr.
C'est comme dans le sport, la troisième mi-temps qui est fort importante. Mais non, c'est une dure réalité. Hein.
Monsieur le sénateur, vous assistez à ces spectacles à Beaumont-sur-Oise régulièrement?
Alors, je vais aller, parce que j'irai, je pense. Non, mais il y a plein de choses. J'essaie d'aller un peu dans beaucoup d'endroits dans le Val d'Oise, mais c'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure. La culture, si elle n'est pas financée par des fonds publics, dans notre pays, elle ne vit pas.
Elle ne vit pas.
Et on est très, je crois, tous très heureux, très fiers de l'exception culturelle française qui fait qu'il y a encore une culture française. Il y a beaucoup de pays dans l'Europe où il n'y a plus de culture, au sens culture, de production nationale. Donc je pense que c'est un modèle. Alors, on a tous débat à chaque fois, des intermittents jusqu'au financement. Mais s'il n'y a pas cela, ça veut dire qu'il n'y a pas de création et donc il n'y a pas de spectacle. Et donc moi, je suis très heureux et très fier que Beaumont, comme d'autres, essaie de développer effectivement. Donc c'est toujours l'adéquation entre... Il faut favoriser la création, il faut permettre effectivement au public d'y accéder. Et je crois qu'il y a un élément aussi par l'éducation, parce que pour beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, il y a un sentiment de c'est pas ma place.
Oui,
en fait, je peux pas y accéder, c'est pas pour moi.
Je sens pas légitime.
Et voilà, la question de la légitimité, vous avez raison. Et je crois que c'est un vrai travail. Donc il faut porter, et je pense que le travail souvent avec les écoles, les classes, et aller jeune dans les salles de spectacle, on se dit finalement, si on est légitime, et donc on crée une culture. Et ça, c'est, je crois, le travail le plus important. Et il faut saluer les collectivités, et aussi les écoles et les enseignants qui font ce travail-là, parce que sinon, effectivement, ça ne marcherait pas. Et là, on revient sur le débat tout à l'heure des finances publiques.
Oui.
Il faut accepter que la culture, ce soit un plus, et effectivement, on ne va pas gagner d'argent. Mais on peut supprimer ce qui ne gagne pas d'argent. Mais par exemple, la culture, il n'y en aurait pas dans notre pays. Et donc, on ne pourrait pas se targuer d'avoir de belles cérémonies, des œuvres qu'on fait voyager à travers le monde. Je veux dire, la France, depuis que la France est la France, soit la culture par l'écriture, par les livres, par les pièces de théâtre, c'est aussi notre patrimoine.
Complètement. Donc, et je crois que c'est un gage de bonne santé d'un pays, la culture. Absolument.
C'est une économie de quelques dépressions, certainement, je
complètement,
pense.
Complètement. Merci infiniment Stéphane Boutin, directeur des affaires culturelles pour la ville de Beaumont-sur-Oise. On mesure l'investissement que vous déployez dans votre activité pour offrir le meilleur aux Beaumontois.
Mais oui, c'est le plus important et c'est le pourquoi du comment je suis venu.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Alors ne partez pas, nous continuons sur cette programmation de la saison culturelle de Beaumont-sur-Oise avec à mes côtés donc Amandine Christin. Donc Amandine, merci d'être venue sur ce plateau.
Merci à vous.
Amandine, donc je vous ai présentée comme une projectionniste, animatrice jeune public au sein du cinéma de Beaumont-sur-Oise. Donc j'ai compris que il fallait pas trop que je vous pose de questions sur le métier de projectionniste, mais quand même vous l'exercez.
Oui, bien sûr. Après maintenant le métier de projectionniste, c'est plus comme avant avec du coup la projection 35 mm que je n'ai pas connue.
Oui.
On est maintenant sur du numérique, donc très très assisté. Moi, par exemple, je compare ça un peu à un menu d'un lecteur DVD, très bêtement.
Oui.
On n'a pas besoin au moins d'une formation technique très très riche. Après, tout ce qui est maintenance, etc., du matériel, tout se fait par téléphone, hotline. Donc, c'est plus le cœur de métier. Nous, maintenant, personnellement, le métier de projectionniste, je dis que je suis un peu couteau suisse. On doit assurer l'accueil, de la communication, de la médiation, enfin beaucoup de choses.
Voilà,
maintenant, il faut être polyvalent, travailler dans un cinéma. On n'est pas seulement les projectionnistes.
Oui, vous n'êtes pas que dans la petite cabine.
On n'y va quasiment jamais.
Plus jamais.
Voilà, juste quand il y a des problèmes.
Alors, votre cœur de métier, c'est donc l'animation du jeune public au sein de cinéma. Décrivez-nous un petit peu une journée type de travail pour vous.
Alors du coup, avec mon responsable, on élabore une programmation jeune public ciblée art et essai.
Oui.
Donc nous, on s'adresse surtout aux enfants de 3 à 12 ans. Voilà. Et donc
vous confirmez ce que disait monsieur le sénateur, qu'il faut commencer très tôt à...
Oui, il faut permettre de l'éducation. Nous, on fait de l'éducation à l'image, on apprend à aller au cinéma. et on fait comprendre que regarder des images, ça se passe aussi au cinéma et pas seulement la tablette ou la télévision. Faire comprendre, surtout aux parents, que ce sont deux mondes bien différents.
Complètement, et ouais, ouais.
Qu'à 3 ans, on peut tout à fait commencer à avoir une culture cinéma, une culture artistique.
Voilà. Oui, et justement, un accès à une tablette qui ne soit pas quelque chose de négatif.
Voilà, on peut proposer des projets... On joint le cinéma à, par exemple, cet outil qui est la tablette, mais c'est vraiment en complément, en supplément, et pas seulement, c'est en gros que ça reste un support, on va dire, pédagogique, oui. Mais surtout, on se focus sur le cinéma.
Alors, je voudrais revenir sur ce métier de projectionniste, quand même, même si on a bien compris que tout est digital, hein, et que... Il y a plus de bobines qui cassent, Mais est-ce qu'il peut y avoir des imprévus malgré tout ?
Il peut y avoir des imprévus, oui, ça peut arriver, bien
de
sûr.
Quel genre ?
Au niveau du son, au niveau de l'image, il peut y avoir des petits couacs qui peuvent se résoudre facilement ou alors sur plusieurs heures, tout dépend.
Vous avez une anecdote à nous raconter ?
Oh là ! Oui, des fois on peut arriver, nous on démarre le film, on s'en rend pas compte, mais il y a pas de son. Donc les gens viennent nous voir au moins 10-15 minutes après pour nous dire il y a pas de son.
Ah, on se demande si c'est normal qu'il y ait pas de son.
Voilà, mais bon après on fonctionne aussi très correctement, mais on peut avoir ce genre de petits couacs de temps en temps. La technologie reste quand même faillible.
Alors vous avez une annonce à nous faire, c'est une séance ciné-rencontre. Qui va avoir lieu aujourd'hui, donc
oui,
le vendredi 25
exactement.
Octobre, à 14h.
Donc à 14h, on a une séance pour le dernier film de Claude Barras, donc ce sera le film Sauvage. Donc Claude Barras est le réalisateur de Ma vie de courgette, donc je pense que les parents ou enfants qui nous écoutent ont peut-être déjà vu ce film, qui a été beaucoup porté aussi par les écoles, les médias spécialisés dans l'enfance. Et donc Sauvage, donc c'est un film en animation stop motion, donc de l'image par image. Et du coup, ça traite de la déforestation à Bornéo, et du coup de la protection des orang-outans, toute la question aussi des peuples natifs qui vivent dans ces forêts. Donc voilà, donc on va proposer donc de diffuser ce film qui est classé à RSC, et par la suite, on propose une rencontre avec Diane De Decker, qui est technicienne stop motion qui a travaillé sur le film. Donc elle viendra avec des éléments de décor du film, qu'elle filmera et ce sera projeté sur l'écran du cinéma. Donc elle expliquera comment procéder pour créer l'animation stop motion. Et après, il y aura un temps d'échange avec les enfants, les parents, pour répondre à toutes leurs questions et leur expliquer un peu les coulisses de ce cinéma qui maintenant est un peu plus niche. Puisque maintenant, on est sur de l'animation 3D, sur des gros studios comme Pixar, DreamWorks, etc. Là, on est sur de l'animation traditionnelle, qui est important aussi de faire découvrir. Et aussi amener les enfants à regarder ce type d'animation, c'est aussi important. Voilà.
Vous avez déjà fait ce genre de...
Oui, bien sûr, oui.
De projection.
Oui, bien sûr. Après, nous, on est, comme je disais, nous, on a un label RSC Jeune Public.
Oui.
Donc, on promeut tout ce genre de films et... À quelques rendez-vous par an, on propose ces animations autour du cinéma d'animation en stop motion. Donc,
et donc vous notez cette de l'intérêt de la part des jeunes pour ce style de projection.
Alors c'est important en fait parce que maintenant en tant que salle de cinéma, on fait pas que de la projection. Il faut absolument faire de la médiation.
Oui.
Il faut qu'on promeut nos événements et qu'on propose des animations et pas seulement diffuser les films. Les salles comme les nôtres, on peut plus se contenter que de ça, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes entrées, les mêmes chiffres qu'avant.
Oui.
C'est un fait. Donc il faut absolument amener le public à découvrir ce genre de cinéma, parce qu'ils n'iraient, beaucoup n'y vont pas d'instinct. Ils vont vers des gros studios, ils vont voir les Mignons, ils vont voir les Pixar, ce genre de choses. Mmh. Et du coup, ces films-là sont un peu mis de côté, parce que, comme disait monsieur, peut-être qu'ils n'y trouvent pas leur compte, ils n'y trouvent pas leur place, ou peut-être aussi un manque de curiosité.
Oui, oui, oui. Donc nous, il a un peu la facilité avec toutes les plateformes de streaming.
Exactement, c'est ça.
Ouais.
Donc nous, on accompagne généralement ces séances-là, on les accompagne d'événements avec une proposition de médiation, parce que c'est une des manières de faire venir ce public en plus d'un tarif.
Très
raisonnable.
Attractif, hein.
Voilà, oui, par exemple, sur ce genre d'événement, là, on va être pour les enfants sur 4 €.
Oui.
Par exemple, sur nos autres programmes de moins d'une heure, on est sur 3,50 € adultes comme enfants. Donc, comme je dis, nous, on est plus sur un terme d'entrée que de chiffre d'affaires. Je veux dire, on n'est pas du tout sur le même objectif. Notre objectif, c'est de faire des entrées et pas de faire du chiffre, du moins c'est mon travail.
C'est votre, c'est surtout ça, oui, c'est votre, voilà, vous avez c'est à ça. Cœur de au fond de jouer un rôle dans la diversité de l'offre culturelle en salle.
C'est ça, oui, hein, exactement.
Ouais, ouais. Ça doit être assez passionnant en tout cas pour vous.
Ah oui, oui, ça l'est. C'est toujours un plaisir de promouvoir des films qu'on a aimé, qu'on a envie de défendre. Moi, je prends toujours plaisir même à discuter avec les enfants et les parents de ce qu'ils viennent de voir, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, est-ce que j'ai bien fait de leur proposer.
Bien sûr.
Et voilà, du coup, on peut créer aussi, je dirais pas des passions, mais un vrai engouement.
Oui, oui.
Et on retrouve sur nos rendez-vous, par exemple, ce qu'on appelle l'essence du petit palace, réservé aux enfants à partir de 3 ans. Toutes les 2 semaines, on retrouve les mêmes petites têtes qui viennent au cinéma avec papa, maman, passer un bon moment le dimanche. On a aussi des habitués de 3 ans.
Qui peut-être un jour seront eux-mêmes projectionnistes.
Pourquoi pas?
Alors, je crois que vous bénéficiez aussi vous avez l'agrément Passe Culture.
Exactement, oui, oui,
donc,
oui.
Donc, ça, c'est important. Je vous laisse nous en dire quelques mots.
Oui, alors, du coup, le Passe Culture, c'est réservé, donc, aux adolescents. Donc, c'est un système où, en gros, ils ont un budget qui leur est alloué pour leur sortie culturelle. Donc, c'est disponible via leur smartphone. Nous, par exemple, ils tapent le nom de la commune. Et ils voient tout ce qui est référencé, spectacle, séance, etc., qui est accessible via le Pass Culture. Donc ensuite, ils réservent leur créneau. Et ensuite, ils se rendent chez nous avec leur smartphone, avec un QR code qu'on scanne. C'est déduit de leur crédit et ça peut leur permettre de profiter d'activités culturelles tout au long de l'année.
Oui, c'est un bel agrément, crois. Oui, oui, en effet. Stéphane Boutin, vous participez à cette programmation aussi du cinéma Palace?
Alors la programmation du cinéma, c'est Ludovic Leduc, le directeur qui devait être présent, mais qui est cloué dans son lit, qui est malade, donc prompt rétablissement Ludovic.
On lui fait un coucou.
Mais donc non, c'est Ludovic qui se charge de la programmation avec Amandine pour la partie jeune public. Donc non, je les laisse gérer entièrement le cinéma, même si j'ai un œil sur les comptes, mais.
mais c'est vraiment un domaine qui est réservé à Ludovic tout à fait.
On a un directeur, donc et plus une équipe. Après, Amandine, je la sors du cinéma pour 2025, elle va aller faire de la médiation à la médiathèque que l'on a de façon à toucher du doigt pour les petites têtes blondes qui ne viennent pas forcément au cinéma. En tout cas, aller leur faire. Donc, il y a 4 ou 5 ateliers de prévus pour 2025. Donc, j'ai une façon d'amener le cinéma à la médiathèque et de l'amener un peu différemment auprès des petites têtes blondes. Puis, on va voir sur quoi d'autre on va pouvoir encore travailler parce qu'il y a encore plein d'autres choses à faire.
Bien sûr.
C'est toujours un peu, faut du temps, pas forcément que des moyens, mais ça dépend certaines fois, mais donc voilà, on réfléchit à tout ça ensemble.
Pour améliorer.
Et d'ailleurs, demain, à la médiathèque, nous avons une lecture publique pour les enfants de 3 à 6 ans, si je raconte pas de bêtises. C'est ça, 3 à 6 ans, c'est gratuit, il était une petite histoire, c'est à partir de 10h30 jusqu'à 11h15, c'est gratuit. Il faut réserver simplement auprès de la médiathèque et dans l'après-midi, il y a 3 séances d'Espace Game sur la magie. Et pareil, c'est gratuit, c'est sur réservation. Okay. Et là, c'est pour les petites têtes de 7 à 12 ans.
Très bien. Bah, écoutez, j'espère que nos auditeurs et auditrices vous écoutent et pourront se rendre à ces animations. Je crois que Amandine, il y a aussi une journée Halloween à Beaumont-sur-Oise.
Oui, jeudi 31 octobre, à 16h. Donc, je vais proposer un programme pour les enfants de 3 à 6 ans, donc mon petit Halloween, avec ensuite, bien sûr, la fameuse distribution de bonbons. Et ensuite, le soir, si je me trompe pas, 20h30, on va passer donc le très célèbre film japonais Ring, pour les plus grands. Je n'invite bien sûr pas les enfants de 3 ans à venir le voir, mais plutôt là c'est plus se proposer à un public ado, adulte, de découvrir, redécouvrir ce classique du cinéma d'horreur japonais.
Très bien. Il vaut mieux réserver, donc
Non, ce n'est pas nécessaire de réserver. Juste, du coup, nous, l'ouverture de billetterie, c'est 30 minutes avant l'événement. Donc, nous, on n'a pas de système de réservation spécifique.
Merci, Amandine Christin, pour votre énergie à maintenir en vie au quotidien ce cinéma en salle. Merci aussi à Ludovic qui n'a pas pu venir, mais bon, qu'on salue et on lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis merci Stéphane aussi pour nous avoir donné cet aperçu de la saison culturelle.
Merci à vous et de votre invitation, Jacqueline.
Je vous en prie. Voilà, on arrive à la fin de cette émission, riche en témoignages. Donc la tradition veut qu'avant de nous quitter, je redonne la parole à mes invités. Je terminerai avec vous, monsieur le sénateur. Donc Stéphane, un mot avant de nous quitter.
Eh bien, que dire, que tout le monde puisse venir au spectacle vivant, ça permettra de continuer à faire vivre des structures comme les artistes, les compagnies. Et puis voilà, ça permet en même temps de grandir. Donc c'est important et de se changer un peu les idées également.
Bien sûr, bien sûr.
Donc j'invite tout le monde à aller dans toutes les salles de spectacle, dans tous les cinémas, dans toutes les médiathèques, partout où il y a de la culture tout simplement. Donc ça peut être les musées, galeries d'art. Il y a plein de choses.
Oui, c'est ça. En fait, la culture est tellement plurielle qu'il y a du choix.
Et puis souvent, nous, souvent c'est à portée de main et c'est pas forcément très très coûteux. Mmh. Alors j'entends, il y a des choses coûteuses, mais il y a beaucoup d'endroits où on peut y aller à pas très très cher. Le Pass Culture, vous en avez parlé avec Amandine. Donc voilà, faut pousser les portes.
Complètement.
Allez voir, appelez.
Merci Stéphane,
merci
à bientôt pour une autre un nouveau tour d'horizon de cette saison. Merci à vous. Amandine, un mot de conclusion avant de nous quitter.
Oui, donc pareil, je convie tout le monde à ne pas hésiter à franchir les portes d'un cinéma à essai, puisque il n'y a pas d'élitisme là-dedans, tout le monde peut y trouver son compte, comme je disais, même les spectateurs de 3 ans peuvent y trouver leur compte, et j'invite aussi les parents à être curieux et ne pas avoir peur de dire « Oh, ça va pas lui plaire ».
Oui. Au contraire, ça peut développer l'esprit critique.
Hein. Oui, ça, on peut avoir des très très belles surprises. Donc n'hésitez pas à faire vivre vos lieux culturels de proximité. Et pas seulement, pour le cas du cinéma, pas seulement les multiplexes ou les grandes enseignes. Mais voilà, n'hésitez pas à franchir nos portes, découvrir notre programmation et nos événements. Voilà.
Merci. Encore une fois, on salue toute votre énergie à maintenir cette activité culturelle importante. Monsieur le sénateur, le cher Rachid, le mot de la fin est pour vous.
Je vais aller dans le prolongement. C'est vrai que au moment où on est dans une société assez violente et assez fracturée, je crois qu'il faut dire à celles et ceux qui nous écoutent, les lieux de culture, les lieux de sport sont des lieux où les gens se reparlent. Je crois que les gens se retrouvent, se parlent de façon apaisée. Et donc, j'ai à côté de moi deux professionnels et je veux saluer celles et ceux qui sont notamment les élus locaux qui font et qui œuvrent pour cela parce que, on l'a dit, c'est des moyens. Et donc, quand vous faites des budgets, vous dites, c'est pas grave, je maintiens ça pour le sport, je maintiens ces sommes-là pour la culture au détriment de choses, mais c'est important. Et je veux saluer deux initiatives, pour rassembler. La première, la maire de Taverny, vous voyez, qui est pas de mon camp politique, qui a beaucoup œuvré pour relancer le cinéma à Taverny, avec deux salles. Et donc là, on est totalement dans du film à la fois de qualité et de proximité, parce que je pense qu'il faut aussi dire que la proximité, c'est aussi de la qualité. Et puis aussi saluer, puisqu'on est à Beaumont-sur-Oise, aussi, où j'ai l'habitude de me rendre, le salon du livre d'histoire.
Oui.
Et parce que vous avez à la fois la grande histoire, mais vous avez également l'histoire locale. Et donc, moi, je vais chaque année. Et notamment, et puis il y a un autre élément, vous pouvez aller aussi à Goussainville, dans le vieux village, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a une histoire très particulière. C'est assez impressionnant, il faut s'y rendre. D'ailleurs, il y a un projet de développement fascinant. Mais il y a là-bas un libraire qui vend notamment des livres anciens. Et donc voilà, deux événements, donc deux lieux, donc vous pouvez ou trois lieux, donc à Taverny pour le cinéma, à Beaumont pour le salon de l'histoire, de livres d'histoire, et puis à Goussainville, voilà, et vous avez aussi des livres sur l'histoire de notre département, et de nombreuses communes, et je crois que c'est important de se le rappeler. Donc voilà, au moment, il faut aller vers l'autre, parler, converser, donc il faut aller dans la culture, il faut aller dans le sport, et il faut saluer celles et ceux qui les soutiennent.
Bien sûr. Un salon du livre pour lequel je reçois régulièrement maintenant Monsieur Fabrice Milleroy. Et j'espère qu'on va pouvoir.
Ce sera le 14 novembre, sauf erreur.
Organiser une. Non, je crois que c'est le 24 novembre.
Ah,
le salon du livre, c'est le 24 novembre.
Le 24, c'est mon côté d'Italie. Le 24 novembre, le salon du livre historique.
C'est toujours plus ou moins le dernier week-end de novembre. Mais en tout cas, merci d'en avoir parlé.
Il y avait une garde napoléonienne l'année dernière.
Oui, c'est vrai. Oui, il y a toujours des belles animations. Eh bien voilà, l'économie en direct sur RDFM Radio est terminée. Merci à vous d'avoir été les invités en direct de cette émission. Merci Francky pour la technique. Merci à nos auditrices et auditeurs qui sont toujours fidèles comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le portail de la radio. La semaine prochaine, l'économie en direct prend quelques jours de congé. Retenez quand même, nous aussi, on fait une soirée Halloween le 31 octobre à la salle des fêtes d'Anguin de 18h30 à 23h. Donc on vous y attend nombreux, tous nos animateurs seront présents. Et puis on vous souhaite une bonne journée et puis à jeudi, j'espère. À bientôt.
Mais n'étaient pas des sans-culottes, car n'en déplaise à Robespierre et autres ci-devant derrière, le fait de gouverner cul nu n'est pas un brevet de vertu. Si la France était menacée, comme j'irais mourir à pied, peut-être bien au même endroit. Quelqu'un me dira, ça ira. Mais qu'on brûle un bout de mon champ, alors je me ferai chouant.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez, via l'appli IDFM Radio et sur IDFM98.fr. IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Jeudi 31 octobre, rendez-vous avec IDFM Radio pour une soirée Halloween à la salle des fêtes d'Anguin-les-Bains, au 18 avenue de Ceinture. De 18h30 jusqu'à 23h, venez danser avec vos plus beaux déguisements en compagnie de votre équipe préférée. Pour l'occasion, DJ, gourmandise, atelier magique, diseuse de bonne aventure, buvette et tant d'autres surprises vous attendent. Un événement pour toute la famille. 5€ pour les adultes et gratuit pour les enfants. Billetterie sur place.